Chromosome X, la nouvelle émission LGBT sur Vibration Gay Radio.
Bienvenue à tous, lancement pour cette nouvelle émission qui s'appelle donc Chromosome X, ici en direct de Alpaguet, avec en plus du public, il y a du monde dans cette salle ce soir.
Allez, faites du bruit.
Là, ils font un peu de bruit, ça fait plaisir. Merci d'être venus autant nombreux dans cette nouvelle émission sur Vibration Gay Radio. Nous sommes aussi avec plus que des invités, des co-animateurs, des chroniqueurs, une nouvelle équipe pour cette émission, notamment Fanny, avec qui on a préparé aussi le concept de Chromosome X. Salut Fanny.
Salut.
Qui a aussi trouvé le nom.
Oui.
Le nom de Chromosome X, c'était important quand même, cette émission. Comment c'était venu un peu cette idée de...
De Chromosome X,
ouais.
Je dois vraiment le dire, reviens.
En fait, finalement, non. Mais non, si, c'est bien. Explique comment c'est venu, parce que c'est assez marrant. Tu travailles dans la santé, en fait.
Voilà, hein. Je travaille dans la santé, je travaille en milieu chirurgical. Et puis, c'est vrai que ce jour-là, ben, tu me disais, ouais, qu'est-ce qu'on peut avoir comme nom? Alors moi, j'ai pensé à ça. Et finalement, entre un intestin et un foie, je me suis dit, Chromosome X, c'est bien, finalement.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà,
ouais,
donc,
ouais, exactement.
Sorti comme ça.
On est aussi avec Sam. Salut.
Hello, bonsoir. Bonjour, bonsoir.
Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà. Et puis, Jean qui est derrière les petits boutons.
Salut.
Ça va bien?
Oui, tranquille.
Tranquille.
Tranquille, on est bien.
Dans cette émission, on aura aussi d'autres intervenants tout à l'heure. Il y aura notamment Paul, qui est aussi... tu peux faire un petit coucou dans le micro, si tu veux.
Bonsoir.
Qui va nous parler de quelque chose, d'un artiste, un petit peu plus précisément, parce que cette émission va se passer comme ça. Nous avons, dans quelques instants, une invitée. Elle s'appelle Murzo, qui est derrière le micro. On va aussi retrouver un sujet que l'on va évoquer durant cette émission. On va essayer de savoir comment on rencontre dans le milieu LGBT. On va en parler, vous pourrez aussi réagir hein, pour tous ceux qui sont dans la salle. On va aussi retrouver une chronique jeune. Cette fois-ci, ce sera avec Joanne. On pourra la retrouver tout à l'heure. On va se poser la question... Est-ce que je suis homosexuel? On s'est tous posé cette question. On va donc essayer de répondre à cette question un petit peu plus tard. On aura aussi une partie sexo. Là, vous pourrez aussi réagir tout à l'heure dans cette partie sexo. On va parler des...
Des premières fois.
Des premières fois. Parce que ça aussi, je pense, c'est un long sujet. On y est tous passés aussi. On a tous eu une première fois. Et si vous en avez une, gardez-la aussi bien au coin de l'oreille. Et vous pourrez peut-être aussi témoigner tout à l'heure pour... Je sais pas.
Ça peut être drôle.
Ça peut être drôle.
Ouais.
Parce que des fois, les premières fois, ben, c'est des souvenirs ou pas, ou des souvenirs qu'on aime se remémorer. Ouais.
C'est ça.
Des fois, on les cache. Donc, on va pouvoir réagir à cette question. Ça sera en fin d'émission. Et puis, on aura aussi l'occasion d'avoir un DJ qui va nous accompagner. Il s'agit de Lika qui est là au milieu exactement et qui va mixer à la fin pour vous ici à Alpaguet. Voilà un petit peu pour le programme de cette émission. On a de la musique qui arrive aussi maintenant et ensuite on accueille Murzo simplement.
Murzo, ouais, voilà. Juste après Avicii qui arrive tout de suite. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. In every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms.
irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday
C'était Avicii à l'instant sur Vibration Gay Radio dans cette émission Chromosome X avec Murzo que nous accueillons pour cette première. Bienvenue Murzo.
Merci, bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Merci d'être venu dans cette première émission quand même. C'est un peu de stress, mais
merci,
nous aussi un petit peu, hein, c'est normal. Alors on va parler un petit peu de toi Murzo avant tout. Je crois que tu vas te lancer Fanny.
Ouais, je vais me lancer, allez on y va. Alors j'ai quelques petites questions. Donc tu fais de beaux dessins. C'est quoi ton parcours? Comment t'es arrivée au dessin?
Alors mon parcours à la base il n'est pas vraiment atypique. Je suis née d'une mère allemande et d'un père irlandais. J'ai grandi en Suisse. J'ai fait toutes mes écoles publiques normales comme tout le monde. Je me suis un peu perdue après le collège et j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de travailler, j'ai fait l'uni en droit, j'ai essayé l'économie.
Ah, c'est chou, ça fait comme si tu avais essayé de faire quelque chose de sérieux aussi quand même.
Ah oui, j'ai essayé, ouais.
Mais c'est pas
comme,
possible.
Comme si le dessin, c'était pas sérieux finalement. Non.
Mais c'est ça qui est drôle, parce que elle dit, j'ai essayé de, quand même de travailler.
Ouais, j'ai essayé de travailler sérieusement dans un bureau.
Comme ouais, là. Comme tout
mais
le monde, bonne
pas,
de partie. Ouais.
Ça pas non, derrière un ordinateur, non, ça le fait pas.
Non. Ouais, ouais. Mais du coup, le dessin, c'est venu plutôt de l'intérieur. Je me suis quand même tournée vers... des choses plus créatives. J'ai étudié l'animation 2D à Vancouver et j'ai étudié la communication visuelle à Paris. J'avais déjà 25 ans. Et ensuite, j'ai commencé à faire du dessin. Et ouais, pour moi, le dessin, c'est vraiment venu de l'intérieur, quoi.
Donc, tu avais besoin d'exprimer tes tripes, quoi, en fait. C'est ça.
Ouais,
c'est...
pour moi, c'est ce qui venait le plus naturellement. Je savais que... je ne ferais jamais rien autant bien que ça. Quoi. Donc, voilà.
Mais tu savais aussi qu'en te lançant finalement dans le dessin, ça ne serait pas facile.
Je savais absolument que ce ne serait pas facile. Ouais. Mais c'est comme s'il n'y avait pas d'autre option.
Ouais.
J'avais tenté de poursuivre une voie plus normale et puis j'avais beaucoup de difficultés à m'intégrer là-dedans.
Alors pour ceux qui ne te connaissent pas finalement, tu travailles comment? Qu'est-ce que c'est finalement tes sujets? Enfin, c'est quoi dans le dessin? Le dessin, c'est large.
Alors, mes sujets sont surtout l'être humain. Enfin, je fais des portraits. J'aime l'anatomie, les parties du corps. C'est surtout ça qui m'inspire. Et puis, soit ça vient de ma tête, ou c'est certaines personnes que je croise dans la rue ou qui sont dans mon entourage qui m'inspirent. Et puis, j'ai envie de les immortaliser un peu comme ça.
Mmh. Avec quelle technique?
C'est du crayon de papier et du fusain.
D'accord, d'accord. Avant tout.
Oui.
Et tu fais des toiles qui sont quand même assez grandes. Tu passes combien de temps sur une toile?
Alors, on me pose très souvent cette question. Et d'habitude, je réponds rapidement en disant entre 40 et 70 heures. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas vraiment et ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir. Parce que ça dépend du tableau. Il y a enfin, il y a certains tableaux qui m'intéressent tout particulièrement et qui me passionnent et je décroche pas, je fais des journées D'accord. à 10h, 12h. Et il y en a d'autres qui prennent une éternité parce que
c'est plus difficile. Ouais.
Le fusain il glisse et puis ma patience elle est plus courte quoi. Ça dépend, ça dépend.
Et t'as déjà fait des portraits qui t'inspiraient pas du tout et t'avais pas envie de finir cette toile et c'était dur pour toi.
Ouais. Ouais, ça m'arrive. Parfois okay. ça traîne et puis et je sais pas, enfin je sais pas pourquoi. C'est juste ça dépend du portrait. Après je me force quand même parce que si je veux qu'il existe. À la base, je veux quand même que...
C'est un travail sur toi aussi, finalement. Tu dois peut-être sortir quelque chose que...
Oui, après, je fais aussi... Je prends des commandes personnalisées. Donc, les gens me commandent telle ou telle personne et je suis ouais. obligée. Et donc, le sujet est imposé. Et je me force à terminer le tableau avant d'en commencer un autre, aussi pour ma propre discipline, finalement.
D'accord.
Est-ce que tu as toujours fait des portraits ou est-ce que tu as... Au début, tu te cherchais peut-être un petit peu et tu as fait d'autres choses que des portraits?
Non, alors j'ai toujours... J'ai toujours dessiné des gens. Et j'ai fait des parties du corps aussi, mais c'est toujours ça qui m'a intéressée. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais pour moi, c'est ça qui est fascinant. Puis, cette idée d'arrêter le temps et d'immortaliser la personne dans un.
D'apprendre à connaître une personne à travers un dessin que tu ferais toi, en fait.
Ouais, je l'analyse et puis j'ai l'impression de mieux la comprendre, mieux comprendre l'être humain quand je le décortique de cette manière-là.
Ouais. Ok. Et puis, pourquoi du fusain? Pourquoi pas de l'acrylique, par exemple? Ou, je sais pas, de la peinture à doigts ou...
Alors, du fusain, parce qu'à la base, quand j'étais à l'école, j'avais des crayons en papier dans la trousse. Et il me manquait un peu de profondeur. Du coup, le fusain, c'est le crayon noir. Après, c'est une matière qui m'énerve, parce que c'est de la poudre qui va partout. Et puis, ça fait des taches et ça peut ruiner un dessin. Mais c'est aussi une matière que, d'une fois qu'elle est apprivoisée, je trouve que ça, le résultat est très beau. Et ouais, la couleur à la base ne m'intéresse pas vraiment.
D'accord.
Je vois la vérité dans le noir-blanc. Et je trouve que ce qui est en noir-blanc donnera bien en couleur. Et le contraire n'est pas forcément vrai. D'accord. Donc pour moi, le noir-blanc,
Ça parle plus, quoi. C'est plus parlant.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Bon, on va revenir justement vers toi, Murzou, d'ici quelques instants. Juste avant ça, eh bien, dans cette émission, on s'est aussi dit avec Fanny que ce serait intéressant de poser la question à des hétéros de comment ils voyaient l'homosexualité. Donc, c'est simplement un petit instant qu'on va vous proposer maintenant. Vous allez pouvoir aussi entendre cette fois-ci dans la salle. C'est un témoignage de quelques minutes avec aucune intervention extérieure, simplement quand les hétéros parlent d'homosexualité. Et là, on a rencontré Nicolas qui a notamment fait partie du comité de la Pride. C'était donc en juin et on découvre ça tout de suite.
L'homosexualité pour toi? Alors, pour moi, c'est quelque chose maintenant qui est devenu pas normal, mais qui est tout à fait acceptable. Et j'ai plus de problème avec ça. Je t'expliquerai plus tard pourquoi je ne traite pas comme ça. Je vais passer à la question numéro 2, des amis et des connaissances homosexuelles. Alors, des amis homosexuels, j'en avais un en particulier, voire deux. Mon meilleur ami, Sébastien, qui m'a fait rentrer dans cette aventure folle de la Pride Valais-Vallis 2015. Et aussi ma première copine qui était lesbienne, Séverine. Donc c'est vrai que je connaissais des gens homosexuels avant de rentrer dans ce milieu de la Pride, que j'ai eu le plaisir de pouvoir donner un coup de main à organiser. Couple homosexuel qui se tient la main dans la rue, je te dirais que quand c'est des hommes, ça me fait toujours bizarre. Oui, j'avoue. Quand c'est des femmes, ça me laisse rêver, mais... Comme je l'avais dit du temps où l'évêque avait parlé de pouvoir guérir l'homosexualité, moi, il y a bien ou deux couples de lesbiennes que je guérirais bien. Enfin, ça n'engage que moi et l'évêque. Donc, je laisse à l'évêque ses paroles et je garderai les miennes. L'homophobie. Alors, pour moi, l'homophobie, c'était pendant longtemps ma façon de penser. Parce que, effectivement... Depuis que j'ai 16-17 ans, j'étais un grand homophobe. Et j'ai retrouvé Sébastien, on était super bons copains. D'ailleurs, c'est mon meilleur ami toujours, mais on était super bien copains jusqu'à 18 ans. On s'est perdu de vue pour des raisons privées. Chacun est parti de son côté, professionnellement, etc. Et quand j'ai retrouvé à 22 ans, il m'a annoncé son homosexualité et ma réaction a été assez dure envers lui. Je suis parti, j'ai quitté la table du restaurant. Et après quelques réflexions, je suis quand même revenu vers lui pour discuter en essayant de trouver une solution à l'époque, parce que je pensais que ça pouvait se guérir ou trouver des solutions pour ça. Et petit à petit, j'ai accepté de le revoir de temps en temps. Après, j'ai accepté qu'il vienne chez moi seul, chez moi avec ses amis, à condition qu'ils se tiennent le plus loin possible l'un de l'autre. Et puis maintenant, j'accepte qu'il vienne avec son copain à la maison, comme n'importe qui finalement, parce que depuis que je me suis retrouvé dans le milieu, et je déteste dire le milieu parce que c'est loin pas un milieu, le milieu LGBT, c'est que en fait vous êtes normaux. Et à ma première séance de comité à la Pride, c'est ce qui m'a le plus frappé en fait, c'est que les lesbiennes avaient plus de stéréotypes sur les homosexuels et les homosexuels sur les lesbiennes que moi sur tout le milieu LGBT. Et je me suis retrouvé assez régulièrement dans des soirées gays depuis lors, parce que quand t'organises une gay pride, tu te retrouves souvent avec des homos, et c'est assez sympa. Je me souviendrai toujours de la remarque de Catherine Day qui m'a dit « Tu sais à quoi on reconnaît un hétéro dans un bar gay ? Ben, c'est celui qui est collé contre le mur. » Donc depuis maintenant, j'essaie même de me mettre au milieu de la salle, et il n'y a aucun souci pour ça.
Voilà pour ce témoignage dans cette première donc chronique. Quand les hétérosexuels parlent d'homosexualité, tout simplement, on aura l'occasion d'en trouver d'autres, hein, bien sûr.
J'espère.
C'est vraiment l'objectif. On peut revenir un petit peu quelques instants auprès de Murzo, hein, de parler un petit peu plus précisément de tes modèles, de tes réalisations. Comment ça se passe vraiment le processus quand tu décides de faire un portrait? Ça se passe comment? Tu dois convaincre la personne? Enfin, ça se passe comment?
Alors, j'ai jamais trop dû convaincre. D'habitude, je demande et en général, la personne dit oui. Je l'invite à venir chez moi dans mon studio. Je prends une centaine de photos. Je lui explique un peu le concept. Je la dirige un peu où je la laisse faire. Ça dépend de mon idée à la base. Et ensuite, je choisis une des photos. Et je me base sur cette photo pour faire le portrait. Et elle, la personne donc, voit que le résultat, je lui montre jamais la photo.
Pas la photo, d'accord. Non. Parce qu'il y a aussi c'est un travail multiple, il y a encore ce travail de photo avant, au début, c'est encore différent. Ouais.
Oui.
D'accord, très bien.
T'as exposé ici au local d'Alpaguet.
Oui.
Comment ça s'est passé, ton exposition? T'avais fait une exposition sur l'homophobie, hein, c'est juste.
Oui.
Oui. Comment ça s'est passé, cette expo ici, avec les gens d'Alpaguet? Comment t'as vécu cette première expérience ici?
Alors, l'expérience était très positive. À la base, je suis pas une personne qui va voir des expos d'art. Du coup, je veux pas prétendre que les gens qui viennent voir mes tableaux, enfin, soit des gens comme ça, arty. Donc, j'aimerais toucher des gens comme moi qui aiment le dessin, mais qui sont aussi intéressés par d'autres choses. Donc, je voulais faire une expo à thème où il y avait une sorte de message. Parce que pour moi, c'est autant important au final que la démonstration de dessin. Donc, c'était ma première expérience. Avant ça, j'avais que fait des expos normales, entre guillemets. Donc là, c'était la première fois où il y avait un thème, il y avait un message, il y avait des témoignages de tous les modèles, il y avait un film artistique, et j'ai trouvé vraiment...
C'était un moment fort, en tout cas.
Pour moi, c'était la meilleure exposition que j'ai jamais faite.
C'est vrai que nous aussi, en tant que spectateurs, c'est vrai qu'on ressentait la passion, le travail que tu as mis, c'était vraiment très fort, cette expo, le film et tout, de présenter tous tes modèles, c'était bien.
Merci.
Et pourquoi... Un sujet sur l'homophobie.
Alors, l'homophobie, c'est une forme de discrimination qui me touche tout particulièrement. Comme je disais avant, j'ai vécu au Canada quelques années. Et là-bas, il y a une manière de vivre qui est beaucoup plus libre, je crois. Et en revenant ici, ça m'a vraiment marqué, cette oppression de la communauté LGBT. Alors, je voulais absolument faire quelque chose dans la mesure du possible.
Vraiment en Valais ? Suisse ou c'est quoi, c'est le continent ou c'est vraiment le Valais?
Je pense que c'est en Suisse de manière générale, ouais. J'habite entre le Valais et Berne, mm-hmm. et pour moi c'est pas vraiment différent à Berne.
Ah ouais?
Ah,
on a l'impression que Berne normalement...
Fausse idée alors, non, on se fait une fausse idée. Hein.
Ouais, exactement, c'est vrai qu'on a l'impression... Mais c'est vrai qu'on a, on a eu plusieurs discussions parfois avec des gens qui disaient que finalement on, a une, on se fait une représentation des grandes villes, mais parfois c'est pas nécessairement mieux non plus, en effet.
Non, alors avec, si on compare avec un endroit comme le Canada, on ouais. ressent vraiment le, la différence.
Ouais. D'accord, très bien, très bien. Cette mise en place aussi de cette exposition... comment ça s'est passé aussi avec Alpagué c'était vous avez décidé ensemble, c'était comment ou c'est venu une, c'était une idée de ton côté?
C'était une idée de mon côté déjà l'année passée, et cette année j'ai rencontré des personnes qui étaient membres du comité et ça s'est fait comme ça. J'aurais posé la question puis elles étaient intéressées directement, elles m'ont aidée tout le long. Et
ils t'ont laissé vraiment prendre part du local comme tu le voulais? Ils t'ont pas donner d'indications ou mettre tes toiles? T'as vraiment pu faire tout comme tu voulais?
Non, alors j'étais extrêmement libre et ouais. enfin, ces personnes m'ont toujours aidée tout au long. Quoi.
C'est quoi les autres sujets qui t'inspirent finalement pour dessiner? T'as d'autres sujets?
Il n'y a pas vraiment d'autres sujets pour l'instant que...
Les personnes,
que l'être humain. Ouais, ouais. Là, je veux partir sur une nouvelle collection où je mélange un peu le paysage et l'être humain, mais pour moi, c'est quand même l'humain, la partie principale. C'est vraiment
c'est l'humain qui t'inspire, quoi.
Ouais. Okay. C'est l'humain qui fait vivre la toile, à mon avis.
Alors justement, tu as commencé à aborder quelque chose. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as en cours comme projet? Qu'est-ce qui va venir pour la suite, prochaine date ou exposition?
Alors là, la même expo que j'avais à Alpagué sera montrée à Genève. Le vernissage, c'est vendredi prochain, le 30.
D'accord.
Et c'est au Café Vivera, à la rue du Môle 22 à Genève. On commence à 18h30. Et sinon, comme nouvelles expos, comme nouvelles séries, j'aimerais commencer l'année prochaine un concept complètement différent où je ne fais pas que du portrait, mais j'aimerais faire une idée de double exposition où je superpose un portrait à un paysage pour ajouter une dimension et... peut-être dépersonnaliser un petit peu le tableau et faire un truc plus conceptuel.
Ok, très
d'accord.
Bien.
Ouais, parfait.
On se réjouit, il y aura peut-être l'occasion de se retrouver à nouveau une fois ici ou...
Oui,
oui,
avec plaisir. Oui.
Et si on veut te suivre justement, est-ce qu'on peut te suivre sur Facebook?
T'as une page, un site?
Oui, alors j'ai un site en construction, murzoart.com.
Ouais.
Et j'ai une page Facebook, facebook.com/murzoart.
Voilà.
Et je pense que tout ça, ce sera en lien sur notre site.
Oui, bien sûr. Nous, on suit aussi bien avec plaisir Murzo. Et puis, avant qu'on se quitte et qu'on parle d'un autre sujet sur lequel on va vous demander aussi un peu de réagir dans la salle, c'est comment est-ce que vous rencontrez en Valais? Attention, on n'a pas que des Valaisans en fait. Tu auras aussi l'occasion de poser des questions aussi un petit peu.
Comment ça se
passe ailleurs? Moi, j'avais une petite dernière question pour juste un peu pour le fun comme ça. Est-ce que tu as déjà eu envie ou tu as déjà réalisé un autoportrait de toi?
Oui, et je l'ai vendu immédiatement.
Ah ouais? Tu voulais plus le garder ou bien c'est parce qu'il est parti assez facilement?
Il est parti facilement. D'accord. Et j'avais pas envie de le garder.
Comment, c'est un autre travail aussi, j'imagine. C'est,
ouais, c'est
soi-même.
C'est perturbant.
Ouais.
Ça doit faire drôle. Hein.
Quand je dessine quelqu'un, le modèle me dit toujours qu'il se sent hyper vulnérable. Et là, j'ai compris quand j'ai fait l'autoportrait qu'effectivement, c'est un peu déstabilisant. Ouais.
C'est, tu te mets à nu toi-même, en fait.
Oui,
c'est ça. Ouais.
Ouais, ça doit être assez impressionnant de, voir, de se dessiner soi-même.
Quand on est obligé de dessiner,
de se retrouver
défaut,
toi en face de toi.
Ouais. C'est une façon de se retrouver face à soi-même. Voilà. Et c'est difficile des fois.
T'as pas envie presque envie de vouloir modifier un petit truc. Tu dis, ah, si j'ajoute ça.
J'ai le nez trop long, ça va pas.
Non, mais après, c'est vrai que on vous conseille de découvrir le travail de Murzo. C'est vrai que quand on arrive dans une salle, où, notamment ici dans l'exposition, on est forcé d'aller très proche. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, c'est une photo. On va tout proche, on dit, non, c'est pas une photo, mais c'est impressionnant. Il y a un travail.
C'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu son travail, je croyais que c'était des photos. Quoi, mais...
Et c'est pas encore de la photo, parce qu'en effet, il y a quand même ce côté où tu travailles ça dessus, on le sent en plus de ça, donc je crois que c'est tout bénef, quoi, en effet. Alors, grande question qu'on va vous poser donc maintenant. Si quelqu'un veut réagir, n'hésitez pas. Vous venez. Salut. Il y a Sébastien du comité de la Pride aussi qui est là. Il a l'air d'être aussi bien en forme.
Heureux.
Ben oui. Écoute, il faut pas hésiter. Hein. Donc si vous aussi,
ne laisse pas aller, c'est bien.
Bah, il faut pas cesser d'aller. Donc si vous aussi vous voulez réagir, n'hésitez pas. Murzo, est-ce qu'on ose te poser la question? Et puis ce qui était super intéressant quand même, c'est que toi, tu avais deux visions différentes. Le Valais, le Canada. Comment finalement tu rencontres, si c'est plus simple, c'était plus simple au Canada ou c'est plus difficile ici que...
Non.
C'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'il a dit?
C'est la même question.
Non, c'est la même question.
Est-ce que c'est plus simple ici, plus dur là-bas?
Oui, c'est vrai que c'est la même question. Ouais.
Alors, je sais pas vraiment. Moi, je dirais que l'amour ne se rencontre pas, ça nous tombe dessus.
Ça arrive.
Mais après, effectivement, là-bas, il y a plus de monde. Donc,
bon, le problème,
la communauté est plus grande.
Le grand problème, c'est que on peut pas, et difficilement, juste sortir dans un bar et puis rencontrer nécessairement quelqu'un comme ça. Il y a quand même.
Si seulement, ce serait bien.
Voilà.
Quand même, hein.
Si on avait un détecteur ou quelque chose.
On s'emmerderait, franchement.
On s'emmerderait. Déjà, absolument. mais après, il y a des situations où on peut se trouver dans des situations un peu compliquées où on essaye d'aborder quelqu'un et en fait, on est un peu à côté. Ça vous est arrivé ou pas du tout? Non, ça arrive qu'à moi en fait. Il y a que moi qui tombe amoureux d'hétéro. Non, je sais pas. Ah, il y a Sébastien. Mais il faut que tu viennes, écoute.
Pour parler
dans le micro, tu sais. Le micro, il vient pas jusqu'à toi. Enfin, moi, je peux me déplacer un petit peu.
Vu qu'on va parler peut-être après des autres cantons aussi, et notamment du Jura, où on peut rencontrer des gens.
Il y a un Jurassien là-bas.
Ce serait peut-être bien qu'il y ait un Jurassien qui se lève dans la salle et qui vienne.
Vas-y, dis-nous.
Qui viennent un peu plus proche.
Comment toi tu fais pour rencontrer, ou bien ça veut dire que ça tombe aussi dessus, tu peux aller n'importe où et puis c'est facile?
Non, c'est pas facile, mais c'est moi je m'en fous, je rencontre et puis après si c'est des hétéros, ça devient des amis, puis voilà.
Ouais, c'est quand même des fois
ou des sex friends. des fois c'est des faux hétéros aussi. Hein.
Ça c'est possible, ça
peu.
Arrive c'est... ça.
Non, il y en a très peu, il y en a trop peu.
Non mais il y en a, oui, peut-être trop peu, peu. Ouais. Mais non mais il y en a, ouais. Non mais moi je rencontre et puis je vais reprendre une phrase que j'ai entendue énormément jusqu'à dimanche passé aux élections qui s'appelle c'est l'humain d'abord, tu vois. Donc voilà, l'important pour moi c'est d'avoir la personne et puis après si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas parce que
il est hétéro justement déjà de base, c'est déjà un problème déjà de base, trouve.
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, alors pour moi c'est pas forcément un problème, pour lui ça va l'être hein, assez rapidement. Hein, ça c'est sûr.
Quelqu'un d'autre qui a une expérience à partager? Paul, tu veux nous dire quelque chose? Tiens, vas-y, dis-nous. Toi, tu fais comment pour...
Attends, moi, je jongle avec le micro.
Voilà,
on jongle avec Fanny les câbles.
Voilà.
Vous voyez, comment en Valais? Alors oui, c'est assez compliqué pour moi en Valais, parce que j'ai l'habitude de beaucoup voyager, puis dans des grosses villes, des grosses capitales, où justement, c'est peut-être plus codifié, on va dire, au niveau vestimentaire, au niveau attitude, au niveau des lieux aussi, bien sûr.
Il y a des lieux, ouais.
C'est vrai qu'en Valais, pour moi, c'est assez compliqué parce que j'ai, au niveau du look des mecs, je me plante juste tout le temps.
Y a
c'est
des gars,
une catastrophe.
C'est ce qu'on appelle les métrosexuels, ils appellent ça,
ouais,
comme ça.
Peut-être. Alors peut-être que les Valaisans sont beaucoup trop métrosexuels, ouais. À mon goût.
Moi, j'ai connu un gars qui s'habillait toujours en rose. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être vraiment un gars, je peux l'aborder. En fait, non, c'était vraiment...
Il était juste Valaisan.
Ouais. Pourtant, je pensais que c'était rouge et blanc. Enfin, voilà. Mais on a aussi, en fait, Stéphane qui était metteur en scène de... Oh là là, maintenant, je suis un peu perdu. de ce spectacle qui s'est joué au Petit Théâtre et qui s'appelait Journal. Voilà, exactement. Et une représentation de Journal s'est jouée dans un lieu de rencontre un peu... officiel. Enfin, moi, j'ai aussi découvert grâce à ce spectacle, je savais pas en fait que sous la BCV ici,
c'était. Et vous pouvez le croiser beaucoup plus souvent maintenant là-bas.
c'était avant. Hein. Parc, il est plus comme il est.
Effectivement, si je peux rajouter, peut-être que c'était plutôt dans le passé que ça se passait, ouais. Là. Au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être encore quelques rencontres qui s'y passent, mais c'est...
Il y a des gens qui jouent à un théâtre un peu étonnant.
Oui, voilà, typiquement, voilà. Il peut y avoir ce genre de représentation théâtrale un peu étonnante, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt sur les aires d'autoroute que les hommes rencontrent d'autres hommes pour y avoir des relations sexuelles plutôt que dans le parc là, sous la BCV. Combien même, voilà.
Et comment ça s'est passé justement cette représentation?
Quel est ton aire d'autoroute préférée?
Non, alors j'ai pas de voiture, tu vois, ça règle vite le problème.
D'accord.
Par contre,
c'est emmerdant pour ceux qui ont pas de voiture.
C'est ça. Par contre, pour répondre à ta question, la représentation s'est très très bien passée. On était une bonne vingtaine à vivre cette expérience-là de pleine nuit dans le parc, à entendre ce comédien nous expliquer, nous raconter ce texte-là qui était assez intéressant dans le lieu même qu'il décrivait finalement.
Ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que pour réexpliquer un peu le concept, c'était donc une adaptation d'une BD de Fabrice Nau, c'est juste.
Exactement, oui.
Ça s'appelle Journal et notamment il parle dans cette pièce à beaucoup de ces lieux de rencontre. C'était très en live, hein, c'est des lieux de rencontre.
Voilà, lui c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui va régulièrement dans des jardins, dans des parcs, dans la nature pour rencontrer d'autres hommes. Puisque c'est pas du tout les mêmes personnes que l'on rencontre là que par exemple sur Internet qui aujourd'hui est quand même un moyen de rencontrer très très utilisé, très populaire. Toutefois, au premier sens du mot populaire, effectivement, dans des jardins, dans des parcs, dans des aires d'autoroute, on rencontre vraiment d'autres personnes qui n'ont pas forcément accès à Internet, qui ne parlent pas forcément la même langue que nous, etc.
C'est aussi très codifié, hein. Ça, c'est ce qu'il le dit. Hein.
Oui, il y a des codes. Celui qui ne sait pas ne voit pas. Il le dit très clairement dans son journal, et ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup d'indices à découvrir pour savoir où est-ce que ça se passe et avec qui on peut passer à d'autres choses qu'une simple conversation.
D'accord. Et puis, d'où est venue l'idée finalement de le faire vraiment dans ce parc de la VCV? Je trouve ça vraiment excellent d'aller vraiment sur les lieux. Allez, on va dans un lieu, quoi, pour de vrai, quoi.
Bah, finalement, au bout d'un moment, on était tout le temps dans cette salle de spectacle, dans cette salle de répétition, et on s'est dit, c'est drôle parce qu'on a essayé de faire un décor qui était à la fois un intérieur, un extérieur, de nuit, de jour, pour pouvoir, que toutes les scènes du spectacle s'y déroulent. Puis finalement, on s'est dit, mais finalement, ce parc revenait très souvent, et on s'est dit, tiens, faudrait qu'on aille dans ce parc-là. Et d'abord, c'est parti d'une répétition, simplement, où avec le comédien, on est allé dans ce parc-là.
Okay.
Et sur une aire d'autoroute, pour voir un peu comment ça se passait, pour se laisser un peu, imprégner de la
réalité.
La prochaine,
vous la faites vraiment sur une aire d'autoroute où il y a encore, c'est encore un lieu de rencontre. Je suis sûr, ça sera, on invente un truc, en fait. On est en train d'inventer un truc.
Une performance artistique sur une aire d'autoroute, pourquoi pas?
Vous pouvez sortir de derrière les buissons et puis regarder une pièce de théâtre, puis ensuite, vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire.
Toutefois est-il, sur les aires d'autoroute, il y a quand même un anonymat qui règne. On a fait une séance photo d'ailleurs pour l'affiche dans les aires d'autoroute et on l'a très clairement remarqué, encore une fois, à quel point si on fait quelque chose qui n'est pas codifié, qui n'est pas dans la norme de ces aires d'autoroute-là, c'est-à-dire on sort un appareil photo, ça perturbe totalement et tout le monde disparaît en espace de quelques minutes. Parce que il y a vraiment une notion d'anonymat dans ces aires d'autoroute-là, dans ces lieux de rencontre-là, où les hommes rencontrent volontiers d'autres hommes, mais sans que ça se sache, sans que ça se dise. Ça reste très anonyme.
On parle beaucoup des mecs, là, dis donc. Et puis, il y a beaucoup de filles, quand même, dans cette salle. Il y a... vas-y, Fanny.
Chez nous, il n'y a pas d'air d'autoroute. Hein,
c'est pour ça que je disais. On est en train de parler d'air d'autoroute, Internet.
C'est vrai que pour les filles, c'est plus compliqué. Enfin, il n'y a pas de lieu spécifique pour rencontrer des filles. Enfin, on vient chez Alpagué, mais ça ne marche pas toujours. Mm-hmm. Sinon, c'est vrai que c'est plus des lieux, des tournants. Tout d'un coup, on sait que dans tel bistrot, ce sera là pendant quelques temps. Donc, toutes les filles vont là-bas. Mais il n'y a pas vraiment de lieu précis. C'est juste ou bien? Oui, c'est juste.
Ouais, ça c'est. Il y a aussi les LOL, c'est juste.
Les LOL de Lausanne. Alors ça, c'est des soirées. Ouais, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est des soirées qui sont pas prises de tête. On y va, on boit, on danse, et puis on rentre souvent bredouille.
Oui, mais t'as quand même bien passé. T'as passé un bon moment. T'as rencontré quand même.
Oui, très souvent.
Ouais,
très
quand
souvent.
Même.
Oui,
ah,
mais
quand même.
Voilà.
Tu me rassures. Tu me rassures.
Oui.
Bon, dans quelques instants sur Vibration Gay Radio, dans cette chronique, dans cette émission Chromosome X, on va s'intéresser à un grand sujet. C'est Joanne qui va s'y coller. J'espère qu'elle a travaillé et potassé son dossier. Grande question.
Elle a pas l'air. Elle se cache.
Là, c'est une grande question quand même. On s'est tous posé, j'imagine, à un moment. Est-ce que je suis homosexuel? On va en parler d'ici quelques instants. C'est de notre chronique jeune dans cette émission sur Vibration Gay Radio. La musique arrive tout de suite.
Chromosome X sur Vibration Gay Radio.
try to infiltrate, but now I'm losing. Medicals always seem to run the show. Save me from the ghosts and shadows before they eat my soul.
LGBT sur Vibration Gay Radio.
No sin, I'll deep is your love?
So tell me how deep is your love, can it go deep? So tell me how deep is your love, can it go deep?
How deep is your love?
So tell me how deep is your love, can it go deep? So tell me how deep is your love, can it go deep?
How deep is your love?
So tell me how deep is your love, can it go deep?
Pull me closer.
So tell me how deep is your love?
How deep is your love?
Calvin Harris, How Deep Is Your Love, Chromosome X,
bah
c'est
oui.
L'émission qui est là, qui continue.
Et qui se déroule en direct Alpagué, enfin pas vraiment en direct, en faux direct on va dire.
On trompe l'ennemi, en différé.
Ouais, parce, qu'en fait on est un peu sous terre et on n'arrive pas à voir.
Voilà, il n'y a rien sous terre.
Non, il n'y a rien, il n'y a pas de... Swisscom ne vient pas jusque sous terre.
Ça dépend des endroits quand même. Hein.
Oui, bah, ici voilà, moi j'ai choisi la meilleure place.
On n'est pas dans un tunnel.
Non, c'est vrai.
Voilà,
Je suis dans une voûte.
Les tunnels routiers, ok, ils les couvrent, mais pas les quand on est dans une voûte, comme tu dis, c'est joli, ça.
Voilà,
une jolie voûte.
On est voûte.
Bon, on va parler.
C'est poétique.
On n'est pas voûté.
On n'est pas voûté, mais on va parler jeune avec une personne qui
attention, il balance.
Qui est un peu voûté. Justement.
C'est l'âge
on
qui fait.
On sent que l'âge, voilà.
Aussi, hein.
Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais elle a chopé quelque chose par terre, je pense.
18h, ça va encore.
C'est bon.
C'est Joanne qui est responsable du projet Prémisse, prévention du rejet des minorités sexuelles à Promotion Santé Valais. Et on va donc évoquer cette grande question que j'ai donc déjà donnée tout à l'heure. Est-ce que je suis homosexuel? Comment savoir si je suis homosexuel? Je dis chronique jeune parce que c'est nécessairement quand on est jeune qu'on se pose cette question. Mais c'est vrai qu'on peut se la poser à tous les âges nécessairement et qu'on peut se la poser même si les années ont passé. Donc voilà. En fait, je suis en train de lancer la question et puis qu'est-ce que je peux dire sur ça?
Voilà, la chronique est finie.
Débrouille-toi. Et bienvenue, Joanne.
Maintenant, débrouille-toi.
Merci de m'avoir invité.
Non, mais c'est vrai que c'est une grande question. C'est vaste.
Alors, ça fait rire tout le monde dans la salle que j'intervienne sur une question pour les jeunes.
Mm-hmm.
Parce que je suis très jeune, bien sûr.
Oui, oui.
Mais tu l'es toujours.
C'est dans la tête.
Surtout plus tard.
Voilà. C'est l'avantage de la radio.
Quand tu seras voûté.
C'est l'avantage de la radio de passer pour une jeune.
Voilà. Alors, non, mais c'est vrai que j'ai monté maintenant en Valais ce projet qui s'appelle Prémisse, qui est la prévention du rejet des minorités sexuelles, parce qu'il semblerait que dans ce canton et ailleurs aussi, certains professionnels, entre autres de l'éducation, de la santé et de l'enseignement, sont pas très bien au courant sur ce que c'est que l'orientation sexuelle, l'identité de genre et ces différentes notions qui sont souvent mélangées, entre autres dans les médias. Donc, à la grande question, comment on fait pour savoir si on est homosexuel, spontanément, je te répondrai, mais comment on fait pour savoir si on est hétérosexuel?
Mmh. Exactement.
Eh ben voilà. Mmh. Donc, en fait, c'est pas si simple parce que ce qu'on sait maintenant, c'est que ces notions-là, ça fait partie de la construction identitaire de chaque individu et que ça se construit pas tout seul dans un coin sur une île déserte.
Et pas d'un coup.
Et pas d'un coup, c'est un processus qui est évolutif et qui peut changer tout au long de sa vie en fonction du vécu, en fonction des relations, de ce qu'on vit avec et des gens qu'on rencontre. Et c'est jamais figé, ces questions-là.
Parce que j'avais entendu parler une personne qui m'avait témoigné un peu l'histoire de sa vie et qui, lui, m'avait dit, c'est dès le début, tout gamin déjà, il sentait ça en lui.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si pour la plupart des gens qui se sentent exclusivement hétérosexuels ou exclusivement homosexuels, c'est qu'une fois pour l'homosexualité qu'on a compris, il est vrai qu'on se rend compte que ça apparaît très tôt dans l'attirance, mais pas seulement sexuelle, affective, émotive, dans ce que la personne, elle ressent
on se rend compte que maintenant, les dernières enquêtes sérieuses scientifiques là-dessus disent que l'orientation sexuelle, on la découvre pour chacun d'entre nous, peu importe quelle elle est, l'orientation vers 10-12 ans. Et pour l'identité de genre, donc le sentiment profond de se sentir homme ou femme, ça apparaît dès l'âge de 4-5 ans. Et après, c'est des processus qui sont évolutifs ou pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens... On est quand même dans une société où 90% des gens est exclusivement hétérosexuel.
Mais c'est ça, après, c'est la société qui fait qu'on...
Voilà, ils se voilent la face, en fait.
On doit choisir. Il y a ce côté, on doit choisir. Il y a un moment, la société, elle est un peu comme ça. On se dit, bah voilà, maintenant, on doit tout à coup...
Tu choisis la normalité ou ta personnalité,
et
en
c'est...
fait.
Non. Mais en fait, c'est ça, on se dit plutôt, voilà, la normalité, c'est ça. Et puis, on sent qu'il y a un petit... On commence un petit peu à sortir du truc, alors on commence à paniquer. Du coup, c'est là qu'on se pose rapidement cette question. Et c'est quand on panique, et souvent, on en voit hein, des jeunes qui ont des cris au secours, en fait, des appels au secours, en disant « je ne veux pas, mais je ressens ça ». Alors, c'est ces moments-là qui sont difficiles.
Dans la construction identitaire, dans le processus, vraiment, quand on fait partie d'une minorité sexuelle, il y a un moment donné où on va se sentir en décalage avec la majorité ambiante, qui est dans notre société. Et du coup, on sait que les pics de suicidalité, ils sont au moment de la découverte pour soi et au moment des premières annonces, donc des premiers coming out. Alors, je rappelle souvent, mais il n'y a pas un coming out. On ne fait pas un jour, papa, maman, je suis homosexuel ou je suis trans. Et puis après, basta. On fait tous les jours des coming out.
On
ne
passe pas dans le nouveliste et puis on
Une
sait
fois,
que tout le monde...
Fini,
voilà.
Ouais, c'est pas fini. Fanny, elle n'est pas... Et... C'est pas fini, ça continue
si
après.
Jamais, hein. Attention.
Non, mais voilà, enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des processus. Et ça prend plus ou moins de temps en fonction du milieu dans lequel on vit, de son milieu familial, du milieu sociétal dans lequel on est. Et plus, même pour un individu qui serait le même, qui vit en Espagne ou qui vit en Iran, le processus, il n'est pas franchement le même. En Iran, c'est encore puni de la peine de mort. Donc, je déconseille fortement de faire son coming out. Hein.
Absolument. Ouais.
Effectivement,
absolument.
Tu ne vas pas trop aller le crier sous les toits dans
quoi,
ce genre de pays.
On n'est pas si fermé que ça.
Non, ça va encore pas si mal par
étonnamment.
Ici. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune à un moment qui se pose vraiment cette question et qui est vraiment en train de se dire il faut que... Enfin, souvent, c'est un peu un appel au secours parce qu'il y a cette crainte en même temps et en même temps, dans le fond, c'est comme si à un moment précis, on aimerait vraiment pouvoir poser... C'est bizarre de dire ça comme ça, mais le diagnostic à ce moment-là. Alors que peut-être on devrait... peut-être pas trop se poser la question tout de suite, laisser les choses un peu plus...
Ce qu'il faudrait, c'est s'accorder du temps à soi-même. Alors, c'est très joliment dit, mais effectivement, moi, je dis souvent qu'on ne choisit pas d'être homosexuel ou d'être trans. On ne le choisit vraiment pas. Ou on le choisit autant qu'on choisit d'être hétérosexuel. Mais par contre, il y a un moment donné où on va choisir de le vivre ou pas. Et puis, c'est là que si tu décides à un moment donné de le vivre, ou tu sais que tu ne choisis pas le parcours qui est facile. C'est un parcours un peu semé d'embûches.
Ça, c'est vrai que ça, c'est la réflexion suivante. Ensuite, une fois qu'on s'est dit « Ok, je veux le vivre », on doit assumer tout le reste. On doit commencer à se dire « Voilà ».
Tu assumes les critiques, tu assumes les regards, tu assumes tout.
Aussi que tu ne vas pas vivre la vie que... Papa, maman
avait envie pour toi aussi.
Oui, forcément, parce que c'est vrai que aujourd'hui, pour la plupart des homos ou des personnes trans, pour la plupart, on est encore issus de parents hétérosexuels quand même, et donc les parents hétérosexuels, ils n'ont pas idéalisé une situation de leur fille ou de leur fils qui sera d'une minorité sexuelle, ça c'est sûr, qu'ils ont plutôt imaginé le truc majoritaire, à savoir quelqu'un du sexe opposé et puis des enfants.
Ouais, clairement. Mais donc c'est vrai que c'est pas la voie facile.
Non.
du tout. Bah ça, on va pas dire. On peut déjà vous le dire. C'est pas facile. Mais qu'en même temps, bah voilà, on n'est pas obligé donc de poser le diagnostic immédiatement et de faire son coming out à la minute qui suit. On peut aussi laisser un peu couler les choses, ouais, laisser se vivre et aussi laisser certaines expériences se dérouler.
Mais est-ce qu'on peut pas aussi se dire qu'il y a aucun schéma qui est vraiment facile, mm-hmm. C'est-à-dire que même si un enfant donc se découvre hétérosexuel, finalement dans ses relations sociales aussi, à un endroit, donc on va prendre l'exemple d'un garçon qui va tomber amoureux d'une fille, mais qui est pas de la même classe sociale, qui est pas la bonne personne.
C'est vrai que déjà là. Ouais.
Finalement aussi, il y a des cas sans. On peut peut-être poser un stéréotype de parcours qui est peut-être plus facile. Et moi, j'ai envie de mettre des guillemets autour du facile parce que finalement, est-ce qu'il y a pas aucun schéma qui est plus facile que les autres?
Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les relations affectives et dans les relations amoureuses, c'est de toute façon, c'est pas évident.
C'est
et d'autant
facile.
D'autant plus que, voilà, après, peu importe la minorité à laquelle t'appartiens, mais c'est souvent, c'est le fait d'être minoritaire. Au même titre que les Noirs américains, ils ont dû à un moment donné revendiquer leurs droits et vraiment être militants pour pouvoir faire avancer l'histoire. Donc c'est vrai qu'après le fait de sortir du schéma idéal imaginé par ses parents, bah, là
est-ce
ça
qu'on
va
finit
être
pas toujours par sortir du schéma imaginé
ah,
par
mais
ses
non,
parents.
Non, il y en a plein qui choisissent le schéma imaginé par papa maman.
Oui, ouais, ça existe aussi. Ouais, ça,
c'est
ça,
c'est alors franchement, en Valais, ça existe non, mais beaucoup,
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Oui, ouais,
même au niveau de la vie professionnelle, je veux dire, il y a quelqu'un qui, je connais une personne qui commence à faire des études monstrueuses. Pour faire un petit peu ce que les parents avaient entre guillemets prédestiné pour lui, il l'avait poussé dans ce sens-là. En fin de compte, est-ce que cette personne-là sera heureuse toute sa vie? Bon, on parle juste de travail, hein. Il peut changer quand il veut, mais est-ce que cette personne-là sera contente d'avoir fait la formation qui dure, je sais pas moi, une dizaine ou une quinzaine d'années même en tout, pour au final
pour
faire quelque chose qu'il aime pas.
Papa, quoi. Ouais, c'est ça.
Pour reprendre la boîte à papa. Et donc ça revient un petit peu à la même chose, je veux dire.
Mais là aussi, c'est aussi un processus long. On met souvent assez de temps à se rendre compte. Ben, j'imagine que c'est pareil aussi. Mm-hmm. C'est pas quelque chose que. Ben, le coming out, le premier, c'est le coming out à soi-même, quoi. Ça, c'est déjà ce premier. Je crois que c'est le plus important.
C'est le plus dur. Oui, on dit souvent ça, que c'est le plus dur. Après, c'est très, ça dépend beaucoup des individus quand même aussi, parce que il y en a qui acceptent très vite pour eux-mêmes. Et puis ça va être l'annonce à l'entourage, à la famille, aux amis, qui est compliqué. Ce qu'on se rend compte aussi de plus en plus maintenant dans les dernières études, c'est que les milieux les plus discriminants aujourd'hui en Suisse, hein, je parle pas des autres pays, mais c'est les milieux sportifs et les milieux professionnels. En fait, il y a beaucoup de personnes LGBT qui sont assez out maintenant avec leurs amis, avec leur famille, mais pas du tout dans le milieu professionnel. Ce qui veut dire que le lundi matin, à la pause café, tout le monde raconte sa balade au bord du lac avec son mari, sa femme, ses enfants. Et puis le LGBT, il a la pause café, puis
il dit rien.
Il dit rien.
Il ferme sa gueule. Ouais.
Voilà. Et ça, c'est vraiment... en Suisse, on passe pas mal de temps au travail quand même. Oui. Il
plus que 35 heures en tout cas.
Plus que les Français.
Et on va en passer encore plus. Hein,
ouais. Et plus longtemps.
Ouais. Et plus longtemps. Ouais.
Ouais, super.
C'est on super cette
chronique.
Ça,
En fait, on a commencé une chronique jeune, on finit par une chronique où on parle du boulot et de la VS.
Non,
mais en quelques. Oui, tu voulais dire.
Ouais, je voulais revenir en fait sur le jeune qui vient vers vous. En demandant, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me découvre homosexuel. Qu'est-ce que je fais et comment je pratique maintenant?
Ben, en fait, pour être très concrète, aujourd'hui, les jeunes en Valais, ils vont, pour ces questions-là, ils vont beaucoup plus au centre CIP, qui sont les centres anciennement, les plannings familiaux, voilà, et qui sont présents dans toutes les villes du Valais. Et ben, maintenant, avec ce projet Prémisse, moi, depuis cet été... Depuis l'année passée, en fait, j'ai vraiment formé quasiment toutes les conseillères maintenant des centres CIP sur venez avec toutes vos questions que vous n'avez jamais osé poser sur l'homosexualité et tous les autres trucs, parce que pour se rendre compte ce que c'est que le parcours identitaire d'un jeune, qu'est-ce que c'est que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, tout ça, l'identité sexuée d'une personne, Et donc, un jeune qui se pose cette question-là, ben, il a au moins cette ressource-là, c'est d'aller au centre CIP, et puis, qui sont des professionnels de la santé sexuelle, il peut poser toutes les questions qu'il veut poser, qu'elle veut poser. Par contre, moi, alors c'est vrai que c'est une chronique jeune, mais souvent je me dis que les adultes qui réalisent pour eux à 40, 50, 60 ans, qui sont finalement, qu'ils ont vécu une première vie.
Qui sont menti toute leur vie, en fait.
Ouais, ouais, voilà. Ou en tout cas, ils ont eu une première vie et puis ils se rendent compte que ça ne leur correspond pas. Eh ben, annoncer son coming out à ses propres enfants, je vous assure que c'est pas plus simple.
Ça, c'est encore bien plus délicat.
Alors, ouais. Ça, c'est trash metal, hein, quand même.
Ouais.
Donc au niveau des ressources, on peut dire centre CIP pour les jeunes. Ouais. Il y a aussi ce site internet qui s'appelle drgay.ch.
Ouais, alors bon, ça c'est vraiment santé sexuelle pour les gays.
Ouais, il y a aussi identité. Il y a aussi une partie identité où on voit qu'il y a des belles réponses. Il y a des choses quand même. Ça peut, si on n'a pas, on a plus envie que ça soit un peu anonyme et peut-être, c'est aussi anonyme le centre CIP, mais il faut se déplacer. Il y a quand même ce côté où il y a un pas à faire peut-être derrière l'écran. Ben, de plus en plus, la société derrière un écran, c'est on va dire que c'est une première étape, c'est déjà un outil.
Mais des fois, le conseil avec une personne qui est formée sur ces questions-là et puis qui doit avoir une écoute bienveillante, elle est aussi dans la qualité du lien, c'est quand même autre chose.
Oui, absolument, ça c'est clair.
Que du lien sur Internet.
Bon, ça permet de faire son premier, d'observer les premières choses, mais en effet, après, s'il y a la possibilité d'aller directement dans les centres CIP, et c'est assez.
Et c'est anonyme, c'est assez facile. Vraiment,
et
confidentiel.
Oui, tout à fait. Ben très bien, merci Joanne. On rappelle donc que tu es responsable du projet Prémisse, prévention du rejet des minorités sexuelles à Promotion Santé Valais. Il y a encore du boulot, c'est ça?
Oui, il y a du boulot. Ouais.
D'accord, ben c'est bon à savoir dans tous les cas. Dans quelques instants sur Vibration Gay Radio, eh bien on va retrouver l'agenda, on va savoir tout ce qui va se passer ces prochains temps à Alpagay. C'est bien, ils sont où, Alpagay? Ah, ils sont là.
Ils lèvent la main.
Il y a Sarah, on va pouvoir tout savoir ce qui va se passer. Et ensuite, eh ben, il y aura une chronique que j'ai pas évoquée au début de l'émission. On va faire le tour quand même de l'actualité LGBT sur la planète.
Bon, il faut quand même s'intéresser un peu à ce qui se passe autour. Hein.
Aussi, on n'est pas qu'en Valais.
On va sortir de notre voûte.
Il y a un monde autour.
Il y a un monde
autour de nos montagnes.
Et à la fin, on va écouter un artiste. C'est un rappeur.
Enfin, l'écouter, on n'est pas sûr encore. On va en parler en tout cas.
Parce qu'il faudrait d'abord qu'on arrive à récupérer l'extrait. Mais on va voir. On va
c'est un rappeur
ça.
Queer.
Voilà, un rappeur qui évolue dans le milieu queer américain et qui a découvert. Enfin voilà, je vous en parlerai un petit peu plus.
Ça marche.
Un peu plus tard.
Bah, ça arrive d'ici quelques instants sur Vibration Gay Radio dans cette émission Chromosome X.
Vibration Gay Radio. www.vibrationgayradio.ch Vibration.